الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Donc toujours dans le livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام, un livre de l'imam عبد الغني المقدسي, une explication de Sheikh عبد الله البسام رحمه الله تعالى, qui nous récite les hadiths. Déjà, il y a un hadith qu'on devait réciter la semaine dernière, il y a deux semaines plutôt. C'était lequel déjà? C'est ça qui devait l'apprendre. C'était lequel? Hadith de Anas, non, fi l'istisqa. Taïb. Hafid Taour? Tfadala. كان نحو بيت دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله انقضت الأموال هلكت الأموال وانقضت السبل فادعوا الله بكم قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس بن مالك رضي الله عنه ألا والله ما نرى في السماء من سحابي ولا من قزعة
ولا قزعة وبيننا وبين سلع من بيت
ودار
نعم
قال فطلعت من ورائي سحابة فطلعت من ورائي حالتي
مثل الترس نعم
فلما توسطت السماء فانتشرت ثم انطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس ستر من ذلك الباب
ثم دخل رجل
من ذلك الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب فاستقبله فقال
استقبله قائما فقال
يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولينا ولا علينا اللهم
على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر
فأقلعت
وخرجنا نمشي في الشمس أحسن بارك الله فيك. طيب الحديث كنا في la semaine dernière dans la prière de la peur, le hadith d'Abdullah ibn Omar, qui nous le récite, c'est le plus court. تفضل.
صلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة فقالت الطائفتان ركعة ركعة
حسن رواه البخاري ومسلم بارك الله فيك. في حديث يزيد بن رومان الصريح بن خوات كي نو ريسيت qui nous le récite. D'accord? Yo? Personne? Mohamed? Donc inutile de demander le hadith de Jabir. Taïb, qui nous l'apprend pour dans deux semaines, ce hadith là? Yoro, t'apprends lequel? Tu es Jabir, Taïb. Et l'autre, qui nous l'apprend pour dans deux semaines? Non. Taïb, Inch'Allah. On continue, Inch'Allah. Comme on a vu la semaine dernière, on entame aujourd'hui le chapitre, le livre des funérailles. Kitab al-Janaïs. Al-Janaïs, jam'u janaza bil-fath, wal-kasri afsah. Ismun yutlaqu ala al-mayyit wa ala al-sarir ma'a al-mayyit. Walil-mayyit ahkamun kathira. Dhakaru huna minha. الصلاة وما يتعلق بها من التغسيل والتكفين والدفن وغير ذلك أما الحقوق المالية فتأتي في الوصايا والفرائض بما أن الكتاب مختصر فإن المصنف لم يأتي بكل ما تدعو الحاجة إليه من الأحاديث المتعلقة بالميت ولذا فإننا نذكر نبذة من الفوائد التي صحت بها الأحاديث. Al-Janaiz, qui est le pluriel de Janazah. Et le mieux est de dire Jinaza. En littéralement parlant, il est plus arabe de dire Jinaza que Janaza. Et Al-Janaza ou Al-Jinaza, c'est un nom qui est donné aux morts, qui signifie le mort, ou qui veut dire par là As-sarir ma' al-mayyit, c'est comment on dit ce qui est utilisé pour porter le mort, un brancard, on peut dire un brancard avec le mort. Et lorsque l'on dit janaza funérailles, cela signifie le mort, mais cela signifie aussi le brancard sur lequel le mort reposé. Et il y a beaucoup de jugements en rapport avec le défunt. L'auteur a cité dans ce livre, Umdatul Ahkam, ce qui est en rapport avec la prière funéraire, ce qui est en rapport avec le lavage du mort, le fait de le recouvrir de linceul, l'enterrement et autres. Quant au droit financier ou quant à ce qui est en rapport avec les biens du défunt, ceci sera traité dans le chapitre des testaments et du chapitre de l'héritage. Et parce que le livre est résumé à la base, parce que c'est un livre court, l'auteur n'a pas cité tout ce dont l'on a besoin, tous les hadiths en rapport avec le défunt. C'est pour cela que nous citerons un certain nombre de points qui sont basés et qui sont issus de hadiths authentiques. Donc ici, le Cheikh Al-Bassam dit que l'imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, l'auteur de Umdat Al-Ahkam, son livre, à la base, est un livre court. Donc, il n'a pas pu citer tous les hadiths dont on a besoin pour connaître l'ensemble des jugements relatifs aux défunts et à tout ce qui a trait. C'est pour cela que Cheikh Al-Bassam dit que dans les jugements ou dans ce qu'il faut retenir des hadiths, il rajoutera des points qui sont bien sûr issus de hadiths authentiques. « فَمِنْ حَقِّ الْمَرِيضِ عَلَى إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ عِيَادَتُهُ وَإِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَيْهِ فإذا كان في حال خطرة يذكر بالتوبة وقضاء الديون والوصية لا سيما فيما يجب عليه بيانه ويكون ذلك بلطف لا يشعر
لا يشعر معه لا يشعر معه بالخوف من دنو أجله ويتأكد على المريض ذلك وأن يخرج من المظالم ويستغفر عن المعاصي وأن يحسن ظنه بالله تعالى فإذا حضره الموت سن لمن حضره تلقينه الشهادتين بلطف وتوجيهه إلى القبلة فإذا مات غمضت عيناه ولينت مفاصله وأسرع بتجهيزه ما لم يكن في تأخيره مصلحة. Parmi les droits du malade vis-à-vis de ses frères musulmans, c'est le fait qu'ils se doivent de lui rendre visite et de faire pénétrer la joie dans son cœur. Donc, parmi les droits du malade vis-à-vis de ses frères musulmans, c'est que ces derniers se doivent de lui rendre visite et d'entrer la joie dans le cœur du malade. Si ce malade est dans une situation critique, alors on doit lui rappeler le repentir et on doit lui rappeler le remboursement de ses dettes, l'écriture de son testament. Et ceci doit être fait avec douceur et gentillesse. Le malade ne doit pas ressentir dans ses conseils qui lui sont dirigés de peur, il ne doit pas ressentir la peur qu'il va bientôt mourir. De le conseiller également de sortir de toute forme d'offense et de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala concernant les péchés qu'il a commis dans sa vie et de penser du bien d'Allah, d'avoir le beau soupçon envers Allah. Et lorsque la mort approche, il est demandé à ceux qui sont présents autour du malade, autour du mourant, de lui faire répéter les deux attestations. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et de le diriger en direction de la Qibla. Et lorsqu'il meurt, ses yeux doivent être fermés, ses articulations doivent être tendues, et on se doit de nous empresser à appliquer et à faire ses funérailles tant qu'il n'y a pas dans le retardement de ses funérailles un bien. وتغسيل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية إذا قام بها من يكفي تسقط عن الباقين شأن كل فرض كفاية فإن ترك صار الإثم على من علم حاله وقدر على ذلك ثم تركه. Le fait de laver le mort, de lui mettre son linceul, de le porter, c'est-à-dire vers sa tombe, de prier sur lui, de l'enterrer, tout ceci font partie des furud kifaya, c'est-à-dire des obligations qui incombent à une partie des musulmans. Si cette partie des musulmans met en pratique ces choses, eh bien l'obligation est levée pour le reste des musulmans, comme cela est le cas pour tout ce qui est considéré comme un fard kifaya. Par contre, si ces choses sont délaissées, alors le péché retombe sur celui qui connaissait la situation de ce défunt et qui avait la possibilité de faire ces choses, puis la délaisser. Donc tout ce qu'a cité le Cheikh, rahimahullah, savoir laver le mort, lui mettre son linceul, le porter, prier sur lui, l'enterrer, si cela n'est fait par aucun musulman, si cela est fait par une partie des musulmans, le reste n'ont rien à faire. Si cela n'a été fait par personne, alors le mal, le péché, revient à celui qui connaissait la situation de ce défunt, qui avait la possibilité de le laver, de prier sur lui, de lui mettre le linceul, etc., etc., puis ne l'a pas fait. وصفة الصلاة عليه أربع تكبيرات بعد الأولى الفاتحة وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الثالثة الدعاء للميت وبعد الرابعة سكتة لطيفة ثم السلام. قال شيخ الإسلام الذي ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن ويقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن وأنه يؤمر بالدعاء له. La description de la prière, c'est-à-dire la prière funéraire, est ainsi. C'est une prière qui est composée de quatre takbirs. Après le premier takbir, l'on récite Surat al-Fatiha. Après le deuxième takbir, l'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le troisième takbir, l'on invoque en faveur du défunt. Et après le quatrième takbir, l'on observe un petit silence, puis on procède au salam. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, ce qui est rapporté dans les sunan d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'il restait debout à proximité de la tombe de son compagnon qui venait d'être enterré. Et il disait, demandez à Allah de le raffermir, car il est actuellement en train d'être questionné. Et ceci est le cas pour toute personne qui est enterrée. Elle sera questionnée et elle aura un examen à passer. Et l'on se doit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de cette personne qui vient d'être enterrée. ثم قال المؤلف رحمه الله باب في الصلاة على الغائب وعلى القبر. Le chapitre de la prière sur l'absent et au pied de la tombe. الحديث الثاني والخمسون بعد المئة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا رواه البخاري ومسلم. الحديث الثالث والخمسون بعد المئة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث رواه البخاري. Le 152e حديث. Selon أبو هريرة رضي الله عنه dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de la mort du négus le jour même où il est décédé. Il est sorti vers al-musalla, vers l'endroit de prière, et ses compagnons ont fait des rangs et il a fait quatre takbir. Rapporté par al-Bukhari et Muslim. Le 153e hadith, selon Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur un najashi, sur le négus. Et j'étais dans le deuxième ou troisième rang. Rapporté par al-Bukhari. Al-Gharib. Na'ahu yan'ahu bifathi awwalihi. Wa na'yu l'ikhbaru bil-maut. Thanyin al-najashi bifathi nouni ala al-mashhur. قال في النهاية والصواب تخفيف الياء اسمه أصحمة توفي في رجب سنة 90 رضي الله عنه. Les termes qui méritent explication dans le hadith. Na'a qui signifie l'annonce de la mort. Na'a yan'ahu, na'ahu yan'ahu al-ikhbaru bil-maut. C'est le fait d'annoncer la mort. Donc ici, lorsque Abu Huraira radiallahu anhu a dit Na'a Rasulullah, Na'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la mort. Al-Najashi, le négus en fait, ce sont tous les gouverneurs d'Abyssinie. Quand on dit Al-Najashi, ce sont tous les gouverneurs d'Abyssinie. Comme quand on dit Al-Fara'ina, les pharaons. Les pharaons, ce sont les gouverneurs d'Égypte, les rois d'Égypte, ce n'est pas une personne en particulier, d'accord. Et le nom de Najashi, du négus,
sur lequel a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est As-Hamah. As-Hamah, qui est mort le mois de Rajab de la 9e année de l'Hégire, radiyallahu ta'ala anha. Donc Allah l'agrée. Al-Ma'na al-Ijmali. النجاشي ملك الحبشة له يد كريمة على المهاجرين إليه من الصحابة حين ضيقت عليهم قريش في مكة ولم يسلم أهل المدينة بعد فأكرم وفادتهم ثم قاده حسن نيته واتباعه الحق وطرحه الكبرى إلى أن أسلم فمات بأرضه ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلإحسانه إلى المسلمين وكبر مقامه وكونه بأرض لم يصلى عليه فيها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموته في ذلك اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات شفاعة له عند الله تعالى. Le sens général du hadith. An-Najashi, qui est le roi d'Abyssinie, qui a été généreux envers les émigrants parmi les compagnons, radiyallahu anhum. Car vous savez que la première émigration a eu lieu vers l'Abyssinie. Lorsque les polythéistes ont réprimandé les musulmans à la Mecque, les gens de Médine également n'ont pas été épargnés. Ainsi, An-Najashi a été généreux envers les musulmans et il a été juste envers eux. Puis, sa bonne intention, son suivi de la religion et son rejet de l'orgueil l'a amené à se convertir. Il est mort dans ses terres. Il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parce qu'il a été bienfaisant envers les musulmans, et parce qu'il avait une immense place, et parce qu'il est mort dans une terre dans laquelle l'on n'a pas prié sur lui, il est mort dans une terre chrétienne, et son peuple était chrétien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons de sa mort le jour même de sa mort. Il est sorti à Al-Musalla. Et on a vu dans les cours précédents qu'il y avait une Musalla qui était réservée aux prières funéraires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti dans ce lieu de prière. Il a fait des rangs et il a fait 4 takbirat. Il a prié sur le négus, la prière de l'absent. Ceci en guise d'intercession pour lui auprès d'Allah. En guise d'intercession pour le négus, pour An-Najashi, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. اختلاف العلماء. اختلاف العلماء في الصلاة على الغائب. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تشرع. وجوابهم على هذه الأحاديث أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الشافعي وذلك المشهور عند أصحاب الإمام أحمد إلى أنها مشروعة لهذه الأحاديث الصحيحة والخصوصية تحتاج إلى دليل وليس هنا دليل. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إذا كان الغائب لم يصلى عليه صلي عليه كهذه القضية وإن كان قد صلي عليه فقد سقط الفرض بذلك عن المسلمين وهو مروي عن الإمام أحمد وصححه ابن القيم في الهدي لأنه توفي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه غائبين ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال إذا مات رجل صالح صلي عليه واحتج بقضية النجاشي وقد رجح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن السعدي وعليه العمل في نجد فإنهم يصلون على من له فضل على المسلمين ويتركون من عداه وقال ابن القيم الصح الأقوال هذا التفصيل. Donc la divergence des savants. Les savants ont divergé sur la prière de l'absent. L'imam Abu Hanifa et l'imam Malik considèrent qu'elle n'est pas légiférée. Et leur réponse à ce hadith, ces hadiths de Jabir et de
Abu Huraira radiallahu anhuma, et que cela est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Shafi'i, et c'est le plus connu chez les compagnons de l'imam Ahmed, que cette prière de l'absent est légiférée. Ils ont pour preuve les hadiths que l'on explique actuellement, et ils disent que le fait que cela est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam demande une preuve, et il n'y a pas de preuve qui le justifie. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a un avis intermédiaire qui est de dire si l'absent, si l'on n'a pas prié sur l'absent, alors l'on prie sur lui comme cela a été fait dans ces hadiths. Mais si la prière funéraire a déjà été accomplie sur cette personne absente, alors l'obligation est levée pour les autres musulmans. Et c'est ce qui est rapporté également par l'imam Ahmed, et c'est ce qu'a considéré vrai l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains de ses compagnons qui étaient absents sont décédés, et il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur eux. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, un rapport de l'imam Ahmed, qu'il a dit, lorsqu'un homme vertueux meurt, l'ont pris sur lui et il a utilisé pour preuve le hadith de Najashi. Autrement dit, que lorsqu'une personne qui a un mérite, lorsqu'une personne qui a une grande place auprès des musulmans, qu'il est légiféré de prier sur lui la prière de l'absent, même si on a déjà prié sur lui et ils ont pour preuve le hadith de Najashi. Et c'est l'avis qu'a considéré l'imam As-Sa'di rahimahullah, comme vous le savez, qui est le cheikh de cheikh Abdullah al-Bassam, et il dit, c'est-à-dire cheikh al-Bassam, que c'est ce qui est mis en pratique dans Najd, dans cette région d'Arabie Saoudite. Il prie, c'est-à-dire la prière de l'absent, sur celui qui a un mérite envers les musulmans, et il délaisse la prière de l'absent sur toute autre personne. Et l'imam Ibn al-Qayyim a dit « Assahhu al-aqwali hada al-tafsil » Le plus juste, la plus juste des paroles est cette précision. « Ma yu'khadhu min al-hadith »« Awwalan mashru'iyyatu al-salati ala al-mayyit »« Li'annaha shafa'atun wa du'a'un min ikhwanihi al-musallin » Premièrement, ce que l'on retient de ces hadiths, c'est qu'il est légiféré de prier sur un défunt. Et que cette prière est une forme de demande d'intercession et une invocation venant de ses frères prieurs. ثانيا مشروعية الصلاة على الغائب وتقدم أن الحديث ليس على إطلاقه بل يخص بها من له فضل وإحسان عام على الإسلام والمسلمين. Deuxièmement, qu'il est légiféré de prier sur l'absent. Et on a vu que ce hadith ne doit pas être pris dans sa généralité, mais que cette prière de l'absent concerne ceux qui ont un mérite et une bienfaisance générale envers l'islam et les musulmans. Thalithan, as-salatu 'ala al-mayyit fi musalli al-'id idha kana al-jam'u kathira. Troisièmement, la prière sur le défunt dans la musalla du 'id, de la fête, que ce soit Eid al-Adha ou Eid al-Fitr, lorsqu'il y a un grand nombre de personnes. Rabi'an, at-takbiru fi salati al-janazati arba' wa taqaddama fi awwal al-bab ma yuqalu ba'da kulli wahidati minhun. Quatrièmement, que le takbir dans la prière funéraire est de 4. Et nous avons vu au début du chapitre ce que l'on doit dire après chacun de ces takbirs. خامساً فضيلة كثرة المصلين وكونهم ثلاثة صفوف لما روى أصحاب السنن أيضا ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. Cinquièmement, le bien, le mérite d'avoir un grand nombre de prières et le fait qu'il soit constitué de 3 rangs. Et pour preuve, le hadith rapporté par Ashabu Sunan,
Sunan Tirmidhi, dans les Sunan de l'imam Abu Daoud, dans le Sunan Ibn Majah, dans lequel le professeur Asselam dit, il n'y a pas un croyant qui meurt, sur lequel prie une communauté des musulmans qui atteigne trois rangs sans qu'il ne lui soit pardonné. Et ce hadith a été jugé faible par Cheikh l'Albani, rahimahullah ta'ala. A été jugé faible par Cheikh l'Albani, rahimahullah. Et d'autres hadiths sont authentiques qui viennent prouver le fait qu'il est légiféré de faire trois rangs derrière le défunt. Mais ce hadith en soi, comme il était rapporté dans les Sunan, Cheikh l'Albani, rahimahullah, le considère faible. Et également dans Ahkam wa Janaiz de Cheikh l'Albani, il cite également le fait qu'il est légiféré de faire trois rangs lorsque l'on prie sur le défunt, en citant un hadith notamment que je n'ai plus en tête. Ceux qui veulent le détail, qu'ils retournent au livre Ahkam wa Janaiz, les règles des funérailles de l'imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Quant au hadith authentique, dans ce sujet, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahumullahu fihi. Il n'y a pas un homme musulman qui meurt et sur lequel prient 40 hommes qui n'associent rien à Allah sans qu'Allah accepte leur intercession vis-à-vis de lui. Dans un autre hadith, 100 hommes. Et dans ce hadith, 40. Et la règle et la condition, c'est que aucun de ces hommes n'associe une autre divinité à Allah. La yushrikuna billahi shay'an. Et là, on voit encore le mérite du tawhid et les dégâts du shirk. Sadisan. الإخبار بموت الميت للمصلحة في ذلك من تكثير المصلين وإخبار أقاربه فإن ذلك ليس من النعي المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية وذلك أنهم يأخذون ينادون عليه في المحلات العالية بأنواع المدائح الصحيحة والمكذوبة وفيه مفاسد من وجوه كثيرة. Sixièmement, on le retient de ce hadith qu'il est autorisé d'annoncer la mort du défunt lorsqu'il y a dans cette annonce un bénéfice, comme le fait d'annoncer la mort d'une personne pour que le plus grand nombre de prières assistent à sa prière funéraire, ou bien pour annoncer la mort à ses proches, et que cela ne fait pas partie de l'annonce interdite citée dans la parole du professeur sallam, prenez garde à l'annonce de la mort, car l'annonce de la mort fait partie des actes de la période anté-islamique. Et ce hadith également a été jugé faible par Cheikh l'Albani dans Sahih Targhib wa Tarhib et dans Da'if al-Tirmidhi, mais son sens est vrai. Et le Cheikh explique quelle est la façon par laquelle la mort était annoncée avant la période de l'islam. Il prenait un appeleur qui se rendait dans tous les endroits, les commerces, etc. et criait à haute voix qu'un tel était mort en faisant ses éloges, des fois des éloges qui étaient vrais, des fois des éloges qui étaient mensongères. Et il y a dans cela de nombreux méfaits, comme le dit Cheikh al-Bassam, rahimahullah ta'ala. Donc, d'appeler la mort et d'annoncer la mort de cette façon n'est pas autorisé en islam. D'annoncer la mort est autorisé pour qu'un grand nombre de musulmans prient sur ce défunt et pour annoncer, naturellement, la mort à ses proches éventuels. الحديث الرابع والخمسون بعد المئة. Le 154e hadith.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا رواه مسلم. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما le prophète صلى الله عليه وسلم a prié sur une tombe après que le défunt ait été enterré. Il a fait 4 takbir, rapporté par Muslim. المعنى الإجمالي قد جبل النبي صلى الله عليه وسلم على محاسن الأخلاق ومن ذلك ما اتصف به من الرحمة والرأفة فما يفقد أحدا من أصحابه حتى يسأل عنه ويتفقد أحواله فقد سأل عن صاحب هذا القبر فأخبروه بوفاته فأحب أنهم أخبروه ليصلي عليه فإن صلاته سكن للميت ونور يزيل الظلمة التي هو فيها فصلى على قبره كما يصلي على الميت الحاضر. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été doté de nobles comportements. Parmi ces comportements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été doté de la miséricorde et de la douceur. Ainsi, lorsqu'il ne voyait plus l'un de ses compagnons, il demandait après lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné ou a demandé après celui qui a été enterré. Ils lui ont alors informé de sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait souhaité qu'il l'ait informé avant, afin qu'il puisse prier sur lui. Car la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une sérénité pour le mort et c'est une lumière qui dissipe les ténèbres dans lesquelles se trouve le défunt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors prié au pied de la tombe de cet homme comme il prie devant un mort présent. Al-Ahkam. أولا مشروعية الصلاة على القبر ولا يلتفت إلى من منعه لرده النصوص بلا حجة. Premièrement, le jugement que l'on retient de ce hadith, qu'il est légiféré de prier au pied d'une tombe. Et l'on ne prête pas attention à tous ceux qui viendraient l'interdire, car cela contredit les preuves sans preuve, car cela contredit les textes sans preuve. Les textes sont clairs sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié au pied des tombes. Et ceux qui viendraient l'interdire contredisent ces hadiths clairs sans preuve. وقيد بعض العلماء بمدة وقيده بعض العلماء بمدة شهر بعضهم حتى يبلى جسده وبعضهم جوزه أبدا وقد جاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال ابن القيم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر في ستة أوجه حسان. Et certains savants on restreint l'autorisation de prier au pied d'une tombe à un mois. D'autres l'ont restreint jusqu'à ce que son corps ne se décompose. Et d'autres l'ont autorisé, quelle que soit la durée. Et il a été rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité d'une tombe qui a été refermée la nuit. Il a dit, quand est-ce qu'un tel a été enterré? Ils ont dit, hier. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit qu'il a été rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il manquait une prière funéraire d'une personne, il allait se rendre au pied de sa tombe pour y prier. Ceci a été rapporté de six chemins différents qui sont tous bons. Thaniyan, inna salata ala al-qabr mithlu salati ala al-mayyit al-hadir. Deuxièmement, on retient de ce hadith que lorsque l'on prie sur une personne au pied de sa tombe, la prière se fait exactement comme l'on prierait devant un mort qui est devant nous. Thalithan, ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والرأفة وتفقد الواحد من أصحابه مهما كانت منزلته فقد ذكر الحافظ ابن حجر أن صاحب هذا القبر امرأة سوداء كانت تقيم المسجد أي تكنسه. Troisièmement, le retien de ce hadith, la miséricorde, la douceur qu'avait le prophète صلى الله عليه وسلم et le fait qu'il surveillait et demandait après ses compagnons, quel que soit leur niveau, quel que soit leur place. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah a cité que l'habitant de cette tombe, ou celui qui était enterré dans cette tombe, était une femme noire qui s'occupait du nettoyage de la mosquée, c'est-à-dire du balayage de la mosquée. وقال المؤلف رحمه الله باب في الكفن الحديث الخامس والخمسون بعد المئة. Puis l'auteur ouvre le chapitre du linceul, le hadith 155. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة رواه البخاري واللفظ له ومسلم. الغريب أثواب يمانية نسجت في اليمن فنسبت إليه مفتوح الياء في الأفصح. ثانيا سحولية بيض نقية ولا تكون إلا من قطن والنسبة إلى السحل إما إلى البياض والنقاء وإما إلى القصار الذي يبيضها بغسله وبعضهم جعلها نسبة إلى قرية في اليمن. سنو عائشة رضي الله عنها elle dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a été recouvert de trois vêtements yéménites blancs et propres. Il n'était composé ni de qamis ni de imama, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les termes qui méritent explication dans le hadith. Des vêtements yéménites, c'est-à-dire qui ont été confectionnés au Yémen. Et c'est pour cela que ces vêtements lui sont attribués, c'est-à-dire au Yémen. Sahouliyah, cité dans le hadith, c'est-à-dire blanc et propre. Et ces vêtements ne peuvent être que de coton. Et ils ont été attribués à Sahoul, soit parce qu'ils sont blancs et propres, ou soit parce qu'ils ont été blanchis et nettoyés par des teinturiers et blanchisseurs. Et certains ont dit que Sahouliya est une affiliation à une région du Yémen appelée Sahoul. المعنى الإجمالي سترة الميت أعظم من سترة الحي وأولى بالعناية ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج في ثلاث لفائف بيض ولم يجعل له قميص ولا عمامة. Le sens général du hadith. Le fait de recouvrir le mort est plus important que de recouvrir le vivant. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été recouvert de trois étoffes blanches et ces étoffes n'étaient ni des qamis ni des imamah. Ma yukhadhu min al-hadith. Awalan, كفن النبي كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب ليس معها قميص ولا عمامة. قال النووي معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرها ولم يكن مع الثلاثة شيء
Premièrement, ce que l'on retient du hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été recouvert, donc le linceul du prophète sallallahu alayhi wa sallam était constitué de trois étoffes de tissu qui n'étaient ni des qamis ni des turbans. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah a dit, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été recouvert ni de qamis ni de imama, mais de trois étoffes ou de trois vêtements autres que le qamis et la imama. Et il n'y avait en dehors de ces trois vêtements rien d'autre. Il n'y avait en dehors de ces trois vêtements rien d'autre. Ainsi l'a expliqué l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Thaniyan, استحباب البياض والنظافة في الكفن. Deuxièmement, qu'il est recommandé concernant le linceul qu'il soit de couleur blanche et qu'il soit propre. ثالثا ان هذه الحال هي اكمل حال التكفين ان هذه الحال هي اكمل حال لتكفين الميت. لأن الله تعالى هدى أصحاب نبيه إلى أكمل حال يريدها له وكما عرفوا ذلك من سنته أيضا. Troisièmement, que cette façon de recouvrir le mort est la meilleure qui puisse être faite vis-à-vis d'un mort. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les compagnons de son prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la façon la plus complète qu'il voulait pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci également en conformité avec ce que les compagnons connaissaient de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rabi'an, wa fihi jawazu ziyadati fil kafani ala al-lifafati al-wahidah. وَلَوْ وُجِدَ مَنْ يُعَارِضُ فِي ذَلِكَ مِنْ وَارِثٍ أَوْ غَرِيمٍ. Quatrièmement, qu'il est autorisé, concernant le linceul, de rajouter plus qu'une étoffe, même s'il vient contredire cela des personnes parmi les héritiers ou des créanciers. On l'avait expliqué ça. C'est-à-dire que si des héritiers préfèrent avoir de l'argent supplémentaire plutôt que de financer deux étoffes de tissu supplémentaire. Ici, Cheikh Al-Bassam dit que l'on a le droit de recouvrir le mort de trois tissus même si des héritiers s'y opposent, ou même si des créanciers s'y opposent, des gens qui ont prêté de l'argent à ce défunt et qui préfèrent que l'argent utilisé pour les deux tissus soit utilisé pour rembourser sa dette plutôt que de rajouter des étoffes pour recouvrir le mort de son linceul. Faïda. المستحب في كفن الرجل أن يكون ثلاث لفائف والمرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب أن يستر جميع بدن الميت. Remarque de Cheikh Al-Bassam rahimahullah. Ce qui est recommandé concernant le linceul de l'homme est qu'il doit être enveloppée de trois tissus. Quant à la femme, elle doit être enveloppée de cinq tissus. Un izar qui vient couvrir le bas de son corps. Un khimar qui vient couvrir la tête. Un qamis qui vient couvrir son corps. Et deux étoffes de tissus par-dessus. Et il est obligatoire de recouvrir l'ensemble du corps du défunt. Il est obligatoire de recouvrir l'ensemble du corps du défunt, et l'on verra par la suite que l'exception est faite pour le muhrim. Pour le muhrim, parce que ça ne peut pas forcément être un hajj, ça peut être aussi un mu'tamir. Non. Babun, thumma qala al-mu'allif rahimahullah, babun fi sifati taghsil al-mayyit wa tashyi'i al-janazah. Al-hadith al-sadis wal-khamsoun. Donc, l'auteur ouvre le chapitre de la description du lavage du mort et du cortège funèbre. Le 156e hadith. An Ummi Atiyyah al-Ansariyah qalat دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغن آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه تعني إزاره رواه البخاري ومسلم وفي رواية البخاري ومسلم أو سبعا وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها رواه البخاري ومسلم وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاث قرون رواه البخاري ومسلم. Selon Umm Atiyya al-Ansariya radiyallahu anha, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré au moment où sa fille Zaynab est décédée. Il a dit, lavez-la trois fois, ou cinq, ou plus, si vous voyez en cela le besoin. Avec de l'eau et du lotus, et mettez dans le dernier lavage du camphre ou un peu de camphre. Et lorsque vous terminez, lorsque vous aurez terminé le lavage, appelez-moi. Umm Atiyyah radiallahu anha a dit, lorsque nous avons terminé, nous l'avons appelé. Il nous a donné son izar et a dit, recouvrez-lui le corps avec. C'est-à-dire avec son izar. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Et dans une version de Bukhari Muslim, ou sept, lavez-la trois fois, ou cinq, ou sept. Et il a dit, et commencez par la partie droite, et par les endroits des ablutions. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Et dans une autre version de Bukhari Muslim, Umm Atiyyah radiallahu anha dit, et nous avons fait, et nous lui avons fait trois nattes. Nous lui avons fait trois nattes. Al-Gharib, ra'aytun dhalik bi kasri al-kafi li'anna al-mukhatabata untha. Thaniyan sidr, huwa shajarun nabq, waladhi yughsalu bihi waraquhu ba'da tahnih. ثالثا كافور نوع من الطيب من خواصه أنه يصلب الجسد رابعا آذنني أي أعلمنني خامسا حقوه بفتح الحاء وكسرها موضع شد الإزار توسعوا فيه فأطلقوه على الإزار نفسه سادسا أشعرنها إياه الشعار بالكسر ما يلي الجسد من الثياب ومعناه اجعلنا إزاري مما يلي جسدها سابعا بميامنها الميامن جمع ميمنة بمعنى اليمين ومنه قوله تعالى فأصحاب الميمنة. Le terme qui explique, qui mérite explication. رأيتن ذلك. Si vous voyez cela, ici c'est ذلك car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à des femmes. Deuxièmement, sidr, le lotus qui est la feuille de l'arbre, le lotus. De laver avec du lotus, c'est-à-dire avec les feuilles de cet arbre après les avoir, comment on dit ? Après les avoir écrasés ou moulus. après les avoir moulues. Donc ces feuilles sont prises, elles sont moulues, puis elles sont mélangées à l'eau. Thalithan kafour, le camphre qui est une forme de parfum, et sa particularité est qu'il a la faculté de raffermir le cœur, le corps, afwan, de raffermir le corps. C'est-à-dire de faire en sorte que le corps ne se détériore pas rapidement, qu'il soit conservé un certain moment. Rabi'an, quatrièmement, adhinnani, c'est-à-dire appelez-moi ou informez-moi. Hiqwahu, dans le hadith, on peut dire hiqwahu ou haqwahu, qui est l'endroit dans lequel on attache le izar, qui est la taille. Mais les savants utilisent ce terme pour vouloir dire le izar directement. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Atiyah et les femmes qui ont lavé sa fille Zainab radiallahu anha, il leur a dit ash'irnaha iya, c'est-à-dire recouvrez lui le corps avec son izar. Et ash-shi'ar, c'est le vêtement qui vient de suite coller le corps. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses femmes de prendre son izar et d'en faire la première étoffe qui est posée sur le corps de sa fille Zainab, radiyallahu anha. Bimayaminiha, al-mayamin, c'est le pluriel de maymana, c'est-à-dire la droite, d'où la parole d'Allah Azza wa Jal, ashabul maymana, et les gens de la droite. Al-ma'na al-ijmali. لما توفيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم على غاسلتها وفيهن أم عطية الأنصارية ليعلمهن صفة غسلها لتخرج من هذه الدنيا إلى ربها طاهرة نقية فقال اغسلنها ثلاثة أو خمسة ليكون قطع غسلهن على وتر أو أكثر من ذلك إن رأيتن أنها تحتاج إلى الزيادة على الخمس وليكون الغسل أنقى والجسد أصلب واجعلن مع الماء سدرا وفي الآخرة كافورا لتكون مطيبة لتكون مطيبة بطيب يبعد عنها الهوام ويشد جسدها ووصاهن أن يبدأن بأشرف أعضائها من الميامن وأعضاء الوضوء وأمرهن إذا فرغن من غسلها على هذه الكيفية أن يعلمنه فلما فرغن وأعلمنه أعطاهن إزاره الذي يباشر جسده الطاهر ليشعرنها إياه فيكون بركة عليها في قبرها. Le sens général du hadith. Lorsque Zainab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anha, est décédée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez les femmes qui la lavaient. Et parmi ces femmes, il y avait Atiyah al-Ansariyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré afin de leur renseigner comment la laver, pour qu'elle quitte ce bas monde et qu'elle rencontre son Seigneur en étant pure. Il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lavez-la trois fois, ou cinq, afin que le nombre de lavages soit impair, ou plus, si vous considérez qu'il y a un besoin de la laver plus que cinq fois, et afin que le lavage soit complet, que le corps soit raffermi, et mélanger l'eau à du lotus et le dernier lavage à du camphre, afin qu'elle soit parfumée, une odeur qui éloignera d'elle toutes les bêtes féroces. Car si la personne n'est pas enterrée assez profondément et qu'elle est mal lavée, eh bien son corps dégagera des odeurs qui pourront être perceptibles par des bêtes féroces qui alors
dévoreront son cadavre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé ses femmes de commencer par les membres du corps, par les membres de la partie droite du corps, et de commencer par les membres des ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné, une fois le lavage terminé, selon la description qu'il leur a faite, de le tenir informé. Lorsqu'elles ont terminé le lavage et qu'elles ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donné son ézar qu'il portait et qui était en contact direct avec son corps pur sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il le place directement sur le corps de sa fille pour qu'il soit une bénédiction pour elle dans sa tombe. Car comme on l'a vu à plusieurs reprises, tout dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam est béni. Ma yukhadhu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. Awalan wujubu ghasl al-mayyit al-muslim wa annahu fardu kifaya. Premièrement, l'obligation de laver le défunt musulman, et ceci est une obligation qui, lorsqu'elle est accomplie par une partie des musulmans, les autres en sont exemptés. Thaniyan, an al-mar'ata la yaghsiluha illa an-nisa wa bil'aks illa mastuthniya min al-mar'ati ma'a zawjiha wal-amatu ma'a sayyidiha fa kullun minhumā falikullin minhumā ghaslu sahibih. Deuxièmement, que la femme n'est lavé que par des femmes. Et l'inverse, ou le contraire, est vrai. Les hommes ne sont lavés que par les hommes. Sauf les exceptions faites à la femme avec son époux et à l'esclave avec son maître. Chacun a le droit de laver l'autre. Thalithan, an yakuna bi thalathi ghasalat. فإن لم يكفي فخمس فإن لم يكفي زيد على ذلك وقيض بعض العلماء الزيادة إلى السبع ولكن المفهوم من قوله إن رأيتن ذلك التفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة ففي رواية الصحيحين أو سبعا أو أكثر من ذلك وبعد ذلك إن كان ثم خارج سُدَّ الْمَحَلُّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الْأَذَى. Troisièmement, ce que l'on retient de ce hadith est que le lavage est fait à trois reprises. S'il ne suffit pas, cinq. S'il ne suffit pas, l'on rajoute ce qui est nécessaire. Et certains savants ont restreint le nombre de lavages à sept. Mais ce que l'on retient et ce que l'on comprend de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous considérez cela, in ra'aytuna dhalik, à savoir qu'il les a laissés décider et de prendre la décision selon ce qu'elles auraient jugé comme étant nécessaire et comme étant dans le bénéfice du défunt. Et dans la version rapportée par les deux sahih, al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou sept ou plus que cela, ou sab'an, ou akthar min dhalik. Et si, après les nombreux lavages, il y a quand même l'impureté qui sort des orifices, alors dans ce cas, l'on obstruera les endroits par lesquels sortent les impuretés. رابعا أن يقطع الغاسل غسلاته على وتر ثلاث أو خمس أو سبع. Que le nombre de lavage est impair, soit 3, soit 5, soit 7, ou plus, selon l'avis le plus prépondérant, mais dans tous les cas, le musulman doit s'efforcer à ce que le nombre de lavage soit impair. خامسا أن يكون مع الماء سدر لأنه ينقي ويصلب جسد الميت وأن الماء المتغير بالطاهر باق على طهوريته. Cinquièmement, que l'eau doit être mélangée à du lotus, car cela est plus lavant, et cela rend rigide le corps du défunt. Et l'on retient également que l'eau qui a été modifiée par une chose pure a toujours sa faculté nettoyante. Sa faculté nettoyante. Une eau qui est mélangée à une chose pure reste toujours nettoyante. Et pure. Elle reste pure et purifie le reste et purifie les impuretés. Sadisan, un يطيب الميت مع آخر غسلاته لئلا يذهب الماء ويكون الطيب من كافور لأنه مع طيب رائحته يشد الجسد فلا يسرع إليه الفساد. Sixièmement, de rajouter dans le dernier lavage du camphre afin que l'eau soit bien utilisée. Et que le parfum doit être du camphre, car en plus de sa bonne odeur, il a la faculté de rendre rigide le corps qui ainsi ne se décomposera pas rapidement. Sabi'an, al-bada'atu bi ghusl al-a'dha' al-sharifa, wa hiya al-mayamin wa a'dha' al-wudu'. Septièmement, de commencer par laver les membres nobles du corps, à savoir ceux qui sont dans la partie droite et les membres des ablutions. Thaminan, ظفر الشعر ثلاث ظفائر وجعله خلف الميت. Huitièmement, de faire trois nattes avec les cheveux du défunt et de les placer derrière le défunt. تاسعا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شيء خاص به فلا يعتاده فلا يتعداه إلى غيره من العلماء والصالحين لأمور كثيرة منها أن هذا الأمر لا يلحقه أحد فيه لما بينه وبين غيره من البون الشاسع. ثانيا أن هذه الأشياء توقيفية لا تشرع إلا بشرع ولا يوجد من الأدلة من يعديها إلى غيره. ثالثا أن الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل الأمة ولم يرد أنهم فعلوا معه ما يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من التسابق على ماء وضوئه ونحوه. رابعا أن التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم من الغلو الذي هو وسيلة الشرك. خامسا أنه فتنة لمن تبرك به وطريق إلى تعظيمه نفسه الذي فيه هلاكه. Neuvièmement, le retient de ce hadith qu'il est légiféré de rechercher la bénédiction dans les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une chose qui est propre à lui sallallahu alayhi wa sallam, qui ne peut s'étendre à autre que lui parmi les savants et les pieux, et ceci pour de nombreuses raisons. Parmi ces raisons, que cela ne peut être étendu à autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il y a un fossé immense entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les savants et les pieux. Deuxièmement, que ces choses, à savoir de rechercher la bénédiction, sont des choses qui sont suspendues à la législation. elles ne peuvent être légiférées que par Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a aucune preuve qui vient prétendre que l'on pourrait rechercher la bénédiction dans les traces d'une personne autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, que les compagnons savaient qu'Abu Bakr radiallahu anhu était le meilleur de cette communauté. Et il n'a été rapporté par aucun d'eux qu'il faisait avec Abu Bakr comme il faisait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment en se concurrençant pour récupérer l'eau avec laquelle a fait ses ablutions sallallahu alayhi wa sallam ou autre. Quatrièmement, que le fait de rechercher la bénédiction dans autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'exagération qui est un moyen amenant au polythéisme. Khamisan, cinquièmement, que le fait de faire cela sera une tentation pour celui auprès de qui l'on recherche la bénédiction. Et cela sera un moyen qui l'amènera à s'immensifier soi-même et ce sera alors la cause de sa perte. Est-ce que c'est clair ? ثم يقول المؤلف رحمه الله الحديث السابع والخمسون بعد المئة le 157e حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه البخاري ومسلم وفي رواية البخاري ومسلم ولا تخمروا وجهه ولا رأسه قال المصنف الوقص كسر العنق غريب الحديث وقصته صرعته فكسرت عنقه ثانيا لا تحنطوه لا تجعلوا في شيء من غسله أو كفنه حنوطا وهو أخلاط من الطيب تجمع للميت ثالثا لا تخمروا لا تغطوا رابعا يبعث ملبيا أي يبعث وهو يقول لبيك اللهم لبيك وذلك شعار الإحرام. Donc le 157e hadith, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit: alors qu'un homme était debout à Arafah, c'est alors qu'il tomba de sa monture qui lui brisa le cou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: lavez-le avec de l'eau et du lotus et faites de son linceul ses deux vêtements. Ne le parfumez pas, ne couvrez pas sa tête, car il sera ressuscité le jour du jugement en faisant la talbiya. Et dans une autre version, le prophète Hassan m'a dit: ne recouvrez ni son visage ni sa tête. Les termes qui méritent explication dans le hadith. Waqasathu, c'est-à-dire que la monture l'a effrayé ou a fait en sorte qu'il tombe et qu'il se casse la nuque et qu'il se brise la nuque. Thaniyan, ne le parfumez pas, c'est-à-dire ne mettez ni dans son lavage, ni dans son linceul du hanout, qui est un mélange de parfums qui est rassemblé pour et qui est confectionné pour le mort. Thaniyan, ne la tukhammiru et la tughattu, ne recouvrez pas. Quatrièmement, yub'athu mulabbiya, il sera ressuscité mulabbiya, c'est-à-dire qu'il sera ressuscité en disant labbayk allahumma labbayk, qui est, comme vous le savez, l'emblème de l'ihram. Al-ma'na al-ijmali,
Leçon générale du hadith. بينما كان رجل من الصحابة واقفا في عرفة على راحلته في حجة الوداع محرما إذ وقع منها فانكسرت عنقه فمات فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه كغيره من سائر الموتى بماء وسدر ويكفنوه في إزاره وردائه اللذين أحرم بهما وبما أنه محرم بالحج وآثار العبادة باقية عليه فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيبوه وأن يغطوا رأسه وذكر لهم الحكمة في ذلك وهي أنه يبعثه الله على من مات عليه على ما مات عليه وهو التلبية التي هي شعار الحج. Le sens général du hadith. Alors qu'un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam était stationné à Arafat sur sa monture pendant le pèlerinage d'adieu. Il était en état d'ihram et tomba de sa monture et sa nuque se brisa et mourut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné à ses compagnons de le laver comme on lave le reste des morts, avec de l'eau du lotus, et de faire de son linceul son izar et son rida, qui sont les vêtements portés par les gens en état d'ihram. Et parce qu'il était en état de sacralisation pour le pèlerinage, et parce que les traces de l'adoration étaient persistantes en lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de le parfumer et de lui couvrir la tête. Car le muhrim n'a pas le droit de se parfumer et n'a pas le droit de couvrir sa tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ou leur a annoncé la sagesse de cela, à savoir qu'Allah le ressuscitera comme au moment où il est mort. Et à savoir la talbiyah qui est l'emblème du hajj. Ma yu'khadhu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. Awalan wujubu taghsil al-mayyit wa annahu fardu kifayah. Premièrement, l'obligation de laver le mort et que cela est une obligation appelée fard kifayi qui lorsque elle est accomplie par une partie des musulmans, les autres en sont exemptés. ثانيا جواز الاغتسال للمحرم كما ثبت ذلك في حديث أبي أيوب. Deuxièmement, on retient qu'il est autorisé au muhrim de se laver comme cela a été rapporté dans le hadith d'Abu Ayyub رضي الله عنه. ثالثا الاعتناء بنظافة الميت وتنقيته إذ أمرهم أن يجعلوا مع الماء سدرا. Troisièmement, l'importance et le soin que l'on doit accorder au lavage du mort et à son nettoyage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on le lave avec de l'eau mélangée à du lotus. Et l'eau mélangée à du lotus permet de mieux nettoyer le défunt. Rabi'an, إن تغير الماء بالطاهرات لا يخرج الماء عن كونه مطهرا لغيره إلى كونه طاهرا بذاته غير مطهر لغيره كما هو المشهور في مذهب أحمد بل الصحيح أنه يبقى طاهرا بذاته مطهرا لغيره كما هو مذهب الجمهور وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. Quatrièmement, ce que l'on retient de ce hadith est qu'une eau modifiée par une chose pure ne sort pas cette eau du fait qu'elle nettoie vers le statut d'être pur sans nettoyer, comme cela est réputé dans le madhhab de l'imam Ahmed. Le madhhab de l'imam Ahmed, ce qui est plus connu et le plus répandu dans le madhhab de l'imam Ahmed, qui est qu'une eau mélangée à une chose pure, cette eau reste pure, mais elle ne peut pas purifier. On peut la boire, elle est pure, mais elle ne nettoie pas. Elle n'a pas la faculté de nettoyer. C'est ce qui est connu dans le madhab de l'imam Ahmed. Et Cheikh al-Bassam dit « Bal is-sahih » mais ce qui est authentique, c'est que l'eau mélangée à une chose pure, à une substance pure, reste pure en elle en soi, mais aussi purifie et nettoie les impuretés, comme cela est l'avis de la plupart des savants, et c'est également l'une des deux versions rapportées par l'imam Ahmed. Est-ce que c'est clair ? خامساً وجوب تكفين الميت وأن الكفن مقدم على حق الغريم والوصي والوارث. Cinquièmement, l'obligation de recouvrir le mort de son linceul, et que le linceul prévaut sur les droits des créanciers de celui qui a été testé et de l'héritier. Al-Wasi, celui à qui le défunt a écrit un testament en lui léguant une partie de ses biens. Le gharim, le créancier, c'est celui qui a prêté de l'argent ou des biens au défunt, et le warith, qui est l'héritier. Avant de donner à chacune de ces catégories le droit qui est le leur, on doit d'abord prendre en charge le linceul du mort et de préférence des biens de ce mort, de l'argent du défunt. سادسا تحريم تغطية رأس الميت المحرم والوجه للأنثى. Sixièmement, l'interdiction de recouvrir la tête du défunt muhrim et de recouvrir le visage pour les femmes. ويؤخذ من قوله يبعث ملبيا. Le visage pour les femmes en état de sacralisation. ويؤخذ من قوله يبعث ملبيا بقياس الأولوية أن ذلك يحرم في حق المحرم الحي. قال ابن دقيق العيد الحديث دليل على أن المحرم إذا مات بقي يبقى في حقه حكم الإحرام وهو مذهب الشافعي وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة. لانقطاع العبادة وزوال محل التكليف ولكن اتباع الحديث مقدم على القياس. ويؤخذ. Et donc le retient de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera ressuscité le jour du jugement en faisant la talbiya. On retient de cela al-qiyas ou al-awlawiyya. C'est-à-dire que ce qui est interdit à faire vis-à-vis du muhrim mort, il est encore plus interdit de le faire pour le muhrim vivant. Si on n'a pas le droit de couvrir la tête et de parfumer le muhrim défunt, eh bien, il est encore plus interdit de le faire pour le muhrim vivant. Et l'imam Ibn Daqiq al-Aid dit, il y a dans le hadith une preuve que le muhrim, lorsqu'il meurt, reste sur lui ou sont appliqués sur lui les jugements de l'ihram. Et c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i. On contredit cela à l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik en disant, et c'est ce qui est conforme au qiyas, à l'analogie, car la personne n'est plus en état d'adoration et elle n'est plus responsable de ses actes. Mais de suivre le hadith prévaut sur l'analogie. Si l'on suivrait l'analogie, on aurait dit que la personne qui décède l'adoration ne lui est plus obligatoire et elle n'a plus de compte à rendre vis-à-vis de ce qu'elle n'a pas pu terminer à cause de son décès. C'est l'avis de l'imam Malik et de l'imam Abu Hanifa. Mais comme le dit l'imam Dariq al-Aïd, mais de suivre le hadith prévaut sur le qiyas. Le hadith est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de parfumer et de couvrir la tête du défunt muhrim.
Sabi'an, tahrimu at-tib 'ala al-muhrim hayyan aw mayyitan, dhakaran aw untha, li'annahu tarafuh wa huwa munafin lit-tawhid wa huwa munafin lil-ihram.
Septièmement, l'interdiction de se parfumer pour la personne en état de sacralisation, qu'elle soit vivante ou morte, que ce soit un homme ou une femme, car cela est du tarafou. Qu'est-ce que le tarafou? Qui connaît? Tarafou, c'est... Comment on pourrait traduire? C'est le bien-être. C'est le fait de jouir d'un bien-être. Car le muhrim, il ne se parfume pas, il ne se couvre pas, il est dans une posture d'humiliation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit donc, et le fait de, par exemple, de ne pas se parfumer, le fait de ne pas se couvrir la tête, le fait de ne pas porter un qamis, le fait de ne pas d'être dans cette situation d'humiliation vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, le fait de se parfumer serait un bien-être qui viendrait contredire cet état de sacralisation dans lequel le musulman se rabaisse devant Allah subhanahu wa ta'ala.
ثامنا أن المحرم غير ممنوع من مباشرة الأشياء التي ليس فيها طيب كالسدر والأشنان والصابون غير المطيب ونحوها.
Huitièmement, on retient de ce hadith que le muhrim qui est en état de sacralisation, il ne lui est pas interdit de toucher des choses qui ne sont pas parfumées, comme le cidre, comme le lotus, comme al-ushnan. Al-ushnan, qui est une chose connue chez les Arabes, qui est utilisée pour se laver les mains, comme cela est cité dans l'isan al-arab. Ma'roufun walladhi yursalu bihi al-aidi was-sabun ghayr al-mutayyib, et le savon non parfumé ou autre.
تاسعا جواز الاقتصار في الكفن على الإزار والرداء وبهذا يعلم أنه يكفي للميت لفافة واحدة لأن الإزار والرداء بقدر اللفافة.
Neuvièmement, qu'il est autorisé de se contenter vis-à-vis du linceul d'un ézar et d'un rida. Et de cela, l'on sait qu'il suffit, ou le minimum demandé en termes de linceul pour le mort est une seule étoffe. Car le izar et le rida, qui sont les parties inférieures, ce qui recouvre la partie inférieure et supérieure du corps, sont considérés comme une seule étoffe.
عشران فضل من مات محرما وأن عمله لا ينقطع إلى يوم القيامة حين يبعث عليه.
Dixièmement, que celui qui meurt en état d'ihram, que ses actes ne sont pas interrompus jusqu'au jour dernier, car il sera ressuscité dans cet état. C'est-à-dire, de sa mort jusqu'au jour du jugement, il est considéré comme muhrim. Et des hadiths sont nombreux qui viennent montrer le mérite de celui qui meurt avant d'avoir fait son pèlerinage. Un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, dans lequel le sens, je ne connais pas les termes exacts, mais le sens, c'est sûr, c'est celui-là, que celui qui meurt avant d'accomplir, celui qui voyage, pour accomplir le pèlerinage et qui meurt durant son voyage, il lui sera compté un pèlerinage jusqu'au jour du jugement. Un pèlerinage chaque année jusqu'au jour du jugement. Ihda'ashar, anna man shara'a fi amalin salih min talabi ilmin au jihadin au ghayrihima wa min niyatihi an yukmilah famata qabla dhalik balagat niyatahu at-tayyibah وَجَرَى عَلَيْهِ ثَمَرَتُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Onzièmement, que celui qui entreprend un acte pieux, comme l'apprentissage de la science, ou le jihad ou autre, et son intention étant de l'accomplir et de le terminer, mais meurt avant cela, eh bien, sa récompense sera perdurera jusqu'au jour du jugement. Sa récompense perdurera jusqu'au jour du jugement. On aktafi bihad al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.